Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de commencer à vous parler de ce qu'on appellera la correspondance, bien que le titre qui figure sur le volume soit « Lettres et autres documents 1925-1975 » échangés entre Hannah Arendt et Martin Heidegger. Il y a une raison à cela, c'est le vœu de l'éditrice Ursula Lutz, qui a fait un très beau travail éditorial, qui a pensé que le titre de « Lettres et autres documents » conviendrait mieux que celui de « Correspondance » dans la mesure où dans la lecture qu'elle propose de cette correspondance, et que vous trouverez dans la postface de l'éditrice, également traduite bien sûr, Ursula Lutz souligne que cet échange épistolaire entre Hannah Arendt et Martin Heidegger n'est devenu qu'à partir d'une certaine époque une véritable correspondance. La deuxième raison, c'est qu'il y a un décalage, une disproportion entre le nombre de lettres retrouvées de Hannah Arendt et le nombre de lettres retrouvées ou conservées de Heidegger. Il y a donc, pour ce qui est strictement des lettres, un quart à peu près de lettres adressées par Hannah Arendt à Heidegger, le reste des lettres adressées par Heidegger à Hannah Arendt. Alors, lettres et autres documents, car il n'y a pas que des lettres dans ce volume, il y a aussi des textes comme Ombre, un texte de Hannah Arendt intitulé Ombre. Il y a également le texte radiophonique de Hannah Arendt pour le 80e anniversaire de Heidegger. Et puis, il y a des poèmes de Hannah Arendt, ainsi que des textes en vers de Heidegger. Je dis textes en vers, car nulle part, semble-t-il, Heidegger ne dit de ces textes que ce seraient des poèmes. Et la traduction de ces textes en vers, très important, adressée par Heidegger à Hannah Arendt, est souvent « pour toi seulement », est le fruit d'une collaboration étroite avec François Fédier. Donc, je ne vais pas présenter cette correspondance sur le mode d'une description du contenu que chacun peut aller voir par lui-même. Ce que je voudrais essayer de faire, c'est un exposé très partial, unilatéral et bien insuffisant, mais avec un angle d'attaque précis pour essayer de poser une question qui serait, comme l'a dit Cécile de Lobel, Hannah Arendt fut-elle la muse de Heidegger, en entendant par là la question du travail philosophique de Heidegger tel qu'il apparaît à la lumière de ses lettres. L'éclairage qu'apportent ces lettres sur ce que Heidegger aimait à appeler son atelier. Hannah Arendt apparaît tour à tour au fil de cette correspondance comme la déesse, la nymphe, Aphrodite sortie des flots, la puissance du démonique, mais aussi comme une muse, comme une inspiratrice, comme présente au sein de l'horizon, sinon au cœur du travail de Heidegger. Alors nous disposons, pour distinguer ces différents plans, d'une distinction traditionnelle et convenue, qui est la distinction entre ce que l'on appelle la vie intellectuelle et d'autre part la vie affective. Une question que je me pose est de savoir si cette distinction peut être maintenue dans la lecture de ces lettres. Est-ce que cette distinction n'est pas elle-même brouillée, bouleversée par ces lettres elles-mêmes? Il n'y a pas, semble-t-il, de cloison étanche entre ces deux domaines, du moins à ce qu'il apparaît à la lecture de ces lettres. Ce que une lettre du 24 avril 1925 appelle le savoir de l'amour, qui pourrait bien à y regarder de près être une autre manière de dire philosophie. À cette époque, une figure importante de la phénoménologie en Allemagne, importante en dehors de Husserl et de Heidegger, Max Scheler, avait développé l'idée, en particulier dans son beau livre intitulé « Nature et forme de la sympathie », dans la traduction française, que l'amour ne rend pas aveugle, contrairement à ce que l'on croit et à ce que l'on dit souvent, que l'amour ne rend pas aveugle, mais qu'il ouvre les yeux. Et c'est en particulier une idée qui trouve sa place, d'une certaine façon, dans le paragraphe 29 d'Être et Temps de Heidegger. Alors je voudrais pour commencer, très simplement, me contenter de relever quelques échantillons, 5 échantillons, de ce qui me semble constituer visiblement une présence manifeste de Hannah Arendt au sein du travail philosophique, c'est-à-dire porté par le savoir de l'amour, de Heidegger. Dès la toute première lettre répertoriée, c'est-à-dire celle du 10 février 1925, adressée à Hannah Arendt, Heidegger conclut sur ces mots « Faire passer dans mon travail la bénédiction qu'est la pureté limpide de votre être. » 2 mois plus tard, le 12 avril 1925, écris-moi bientôt afin que tu me sois présente en mes conférences, conférences sur Diltai que Heidegger devait faire à Kassel, puis Hölderlin accompagne grandement ma vie, poursuit Heidegger, et en toute chose, c'est ta proximité que je ressens. 12 jours après, le 24 avril 1925, citation, « Ce qui passe dans mon travail grâce à ton amour. » Le 1er juillet 1925, « J'aime toujours être proche de toi à partir de l'horizon de mon travail. » Et enfin, pour se limiter à l'année 1925, le 23 août de la même année, je cite, « Parmi les quelques livres posés sur mon écritoire, il y a Hyperion de Hölderlin. Sais te dire si ton être et ton amour font partie de mon travail et de mon existence. » Il y a, fin de citation, il y a clairement ici, me semble-t-il, une sorte de blanc ou d'ellipse entre ces deux phrases, et tout comme Proust, je crois, disait que le plus beau passage de l'éducation sentimentale de Flaubert, c'est un blanc, on pourrait trouver une certaine beauté aussi à ce blanc. Je relis les deux phrases. Parmi les livres posés sur mon écritoire, il y a Hyperion de Hölderlin, point. C'est te dire si ton être et ton amour font partie de mon travail et de mon existence. Quelque chose ici, visiblement, nous échappe. Et là où quelque chose nous échappe, raison de plus pour devoir interpréter. J'arrête ici, si vous le voulez bien, le prélèvement des échantillons. Comme je me limite à l'année 1925, c'est-à-dire l'année du commencement de cet échange épistolaire, Hannah Arendt a souvent cité le mot de Platon dans les lois qui dit « arche garkaitéos », le commencement est comme un dieu qui, aussi longtemps qu'il demeure auprès des hommes, sauve tout. Et c'est précisément un cours de Platon, le cours de Heidegger en 1924-25 sur le sophiste de Platon, dont un passage se retrouvera en exergue d'Être et Temps en 1927, ce cours de Heidegger sur le sophiste de Platon en 24-25, dont Hannah Arendt fut auditrice à Marbourg, qui ne cessera de revenir comme un secret fil directeur, conducteur, voire comme un fil d'Ariane, dans le parcours parfois labyrinthique de cet échange épistolaire. Tout au long, et jusque dans les années 60, peut-être même au début des années 70, Hannah Arendt est morte en 1975, il est question encore et toujours de ce premier cours de 1924-25 sur le sophiste de Platon. Alors, dans les quelques échantillons que je vous ai soumis, le rapprochement ne manque pas de frapper, qui est souligné à plusieurs reprises par Heidegger, comme nous venons de le voir, entre sa lecture de Hyperion, de Hölderlin, et d'autre part, la proximité de Hannah Arendt dans son travail. Ce rapprochement, explicitement souligné, pourrait amener à se demander si Hyperion de Hölderlin, ce roman grec, supposé que roman grec ne soit pas une expression contradictoire ou un oxymore, se demander si Hyperion ne constitue pas non seulement un arrière-plan, mais peut-être une clé, parmi d'autres, de la relation dont ces lettres portent la trace. Je rappelle que la toute dernière page d'Hyperion demande « Mais qui donc pourrait bien séparer ceux qui s'aiment ?» La toute dernière page d'Hyperion dit également « Comme la discorde entre les amants, ainsi les dissonances du monde, la réconciliation est au cœur du conflit, et tout ce qui est séparé se retrouve à nouveau. » C'est enfin dans Hyperion que se trouve la référence à Héraclite, à ce fragment d'Héraclite, En diapheron eoto, l'un différencié en soi-même, emprunté au discours d'Eryximaque dans le banquet de Platon, où Hölderlin voit l'acte de naissance de la beauté et de la philosophie. Hannah Arendt, muse d'être étant, je crois que la question peut être tranchée sans trop de scrupules en un sens affirmatif. Lettre du 7 décembre 1927, Heidegger lui écrit, l'année donc de la parution d'être étant, « Tu as lu mon livre, autant dire que tu as fondu ton amour au creuset de ton bonheur nouveau. » Or, je crois qu'il apparaît très clairement ici que la relation entre Hannah Arendt et Heidegger n'était pas une relation romantique. Elle n'était pas une relation romantique, non pas bien que Hölderlin et Hyperion soient à l'horizon, mais précisément parce que, entre autres raisons, il est question d'Hyperion. Et Heidegger, mais surtout par la suite, jamais n'interprétera Hölderlin au sens d'une figure du romantisme. La relation, même épistolaire, la relation telle qu'elle apparaît au fil de ces lettres ne me semble pas du tout être une relation romantique, mais si elle n'était pas romantique, cette relation entre Hannah Arendt et Martin Heidegger n'a rien pourtant d'ordinaire. À supposer que des amours puissent être ordinaires, et je crois que c'est cette difficulté-là qu'il serait intéressant d'essayer d'approfondir, c'est-à-dire la modalité de cette relation qui échappe à la fois à ce que Heidegger appelle dans une lettre l'idéalisation romantique, qui échappe à la sphère que l'on a pris l'habitude d'appeler romantique, mais en même temps tout autant à quelque chose d'ordinaire. Donc je crois que cette relation n'a rien de romantique et qu'elle n'a rien d'ordinaire. Deux affirmations, évidemment, qui sont surtout des négations, mais qui aident peut-être pour chercher à préciser ce qui ressort précisément de tout à fait extraordinaire et qui, pour autant, n'est pas romantique. Le 8 mai 1925, et en 1925, ce sont surtout des lettres, même exclusivement, de Heidegger que nous avons. Heidegger écrit « Tu m'as dit, en s'adressant à Hannah Arendt, tu m'as dit que lors de notre première promenade, l'angoisse t'avait étreinte quant à ce qu'il adviendrait, mais que pourrait-il bien encore advenir qui ne soit déjà advenu et à jamais ? Fin de citation. Que pourrait-il bien encore advenir qui ne soit déjà advenu et à jamais ? Or, cela est